Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Voilà l'été, le soleil est là, les vacances approchent, mais mauvaise nouvelle, c'est la dernière émission de l'année pour Par le bout de la lorgnette. Émission habituellement où Héloïse nous demande quel est l'ouvrage qui nous a marqué cette année, mais après nous avoir fait lire 26 romans, 62 bandes dessinées, 4 mangas, 8 ouvrages photos et autres romans jeunesse, bien entendu, nous ne pouvons pas nous rappeler de ce que nous avons lu, à part Valérie qui, s'attendant à cette question, a bien entendu travaillé son sujet. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Ça va ?
Bah super, et vous ?
Ça va très bien. Salut Valérie, c'est bon ? Tu es prête pour la question fatidique de fin d'émission sur nos ouvrages préférés de 2017-2018 ?
Eh bien écoute, au hasard, sans avoir réfléchi, je dirais la sélection jeunesse de l'émission du 18 février, Le Chant des Pierres.
Très bien Valérie. Au moins, on sait ton ouvrage préféré, on sait aussi celui d'Héloïse, hein, qui a lu, on le rappelle, la dernière émission, ce fantastique livre de Joël Batz,
Gardien de ma vie.
On verra pour Popo et pour moi. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Allez Popo, bientôt en vacances là. Hein.
Oui, oui, oui.
Ça c'est chouette. Hein. On a qui ont de la chance. On a reçu de nombreux mails d'auditeurs qui attendent son intervention. Salut Pauline.
Bonjour.
Voilà, alors tu nous as pas fait un bilan financier au moins pour cette émission ?
Non, pas de bilan financier.
Eh bien écoute, tu as bien raison. C'est parfait. Alors aujourd'hui, Louise, nous allons parler de vacances.
Et tout à fait, on va parler de vacances, d'été, de soleil, de plage, de montagne, peut-être, je ne sais pas, mais je me souviens plus de ce que je vous ai donné.
Du plateau des mille vaches.
Du plateau des mille vaches, pourquoi pas, une belle destination touristique. Non, mais voilà, quels sont les livres qui parlent de vacances ou alors qu'on proposerait... qu'on vous conseillerait pour vos vacances. Voilà, c'est assez large.
Ça, c'est large. Allez, on va commencer par Popo, tiens. Allez.
Ok.
T'es la plus près de la fenêtre.
Eh bien, c'est parti. Eh bien, écoutez, moi, j'ai lu un livre que je vous conseillerais pas trop d'emmener en vacances, que je vous conseillerais pas vraiment de lire non plus.
Merci, Popo. Alors, donc, Valérie.
Pourtant, enfin, vous allez voir, le titre était vachement engageant, je tiens à le dire. Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse ? Dans la collection Aventure humaine de chez Pocket. Je blague quand je dis que le titre était engageant, moi ça m'emballait pas, mais je voulais voir, j'étais curieuse de voir. Alors, je vous donne des petits points positifs quand même, et puis je dirais ce qui n'allait pas après. Les points positifs, c'est un livre court qui est dynamique, donc ça passe vite, c'est plutôt pas mal. Mais finalement, donc c'est... je vais le dire quand même, le mot pérégrination malgré la fatigue d'une petite blonde autour du monde. Elle va nous raconter des petites anecdotes sur ses voyages. Elle voyage énormément. Là, elle passe au Vietnam, en Russie, en Chine, en Inde. Et l'objectif du bouquin, c'était un peu de porter un regard normalement amusé sur ses voyages. Donc c'est pas un guide. Le but, c'est pas de donner envie de voyager. C'est pas de donner des vrais conseils sur comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. C'est faire le point sur des situations cocasses d'une petite blonde qui voyage à travers le monde. Donc ça semblait plutôt sympa dans l'idée. Perso, l'humour m'a pas trop touchée. Mekong rime avec ping-pong et ding-dong. ça va très très loin, c'est c'est fantastique. Et puis, au bout de 10-15 anecdotes où elle insiste sur le fait qu'elle voyage hors des sentiers battus et où elle croise pourtant des tas de routiers dont elle se moque joyeusement, ensuite, après avoir insisté sur le fait qu'elle était bah, petite, blonde et aventureuse et que c'était incroyable qu'elle voyage dans le monde toute seule, ça m'a beaucoup fatiguée. J'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que c'était facile et trop évident, finalement. Donc, vraiment, pas une lecture terrible. Malgré toutes les bonnes critiques qu'il y a pu y avoir, moi, j'ai pas été du tout accrochée.
Il y a eu des bonnes critiques, du coup, pour le livre.
Ouais. Les journaux féminins ont beaucoup critiqué de bien.
Après, parce que comme t'en parles, ça a l'air un peu d'être une pain bêche, quoi. T'as pas envie d'être son amie.
Eh bien, on la ressent pain bêche, c'est ce que je trouve aussi. C'est une biologiste. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de sérieux. Mais elle se donne cette image de nana qui se retrouve face à un Chinois qui crache et qui dit « Ah, mais c'est dégueulasse, les Chinois qui crachent !» Enfin bon,
C'est quand même un peu dégueulasse,
c'est quand même un peu dégueulasse.
Ne pas dire.
Mais bon, voilà, c'est le seul épisode qui m'a marqué. Les autres anecdotes n'ont rien de particulier. On n'en voit pas venir la fin, il n'y a pas de chute, il y a... Enfin, c'était pas vraiment... voilà, ça m'a pas...
Et en plus, c'est vrai que ça pourrait être bien... Tu dis qu'il n'y a même pas de conseils, en fait, sur comment voyager quand t'es une femme et quand t'es seule. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a un blog qui existe pour les femmes qui voyagent seules.
Et avec des vrais tuyaux, j'imagine.
Avec des vrais conseils. Et des... Enfin, donc ça peut être pas mal. Mais bon, effectivement, s'il n'y a que des...
Bah voilà. Le seul but étant d'être drôle, bah, il faut capter son humour pour aimer, peut-être.
Voilà. Alors on salue et on remercie Katia Stafiat d'avoir écrit ce livre.
Et... Elle est française, c'est français.
Oui, elle est française, ouais. Désolée pour le bouquin.
Écoute, mais... c'est bien aussi de...
Oui, ça n'engage que nous, hein. Il y a des personnes qui aiment, ça reste subjectif, c'est comme la musique.
Oui, il faut tester quand même.
Mais voilà, aussi bien ça va vous plaire. Ok, alors merci Popo d'avoir plombé cette émission.
Valait mieux que je commence, la suite sera mieux pour moi en tout cas.
Ah, super. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie ?
Mais absolument rien. Je réfléchissais à la transition au cas où tu me donnes la parole, c'est tout.
D'accord, je te donne la parole.
Eh bien, je vais encore plus plomber l'ambiance.
Alors, je ne te donne pas la parole, sinon. Allez, on reviendra à toi après. Héloïse.
Oui, moi je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Les garçons de l'été. Donc tout de suite, c'est un titre. La couverture, c'est un petit livre de poche. La couverture, on a un beau jeune homme peint de dos et qui tient un surf et qui fait face à la mer. Voilà, dans des couleurs très très chaudes et
attrayantes. C'est un ami de Katia, voilà. Je crois.
Comment voyager seul quand on est blond, petit
et qu'on fait du surf.
Donc voilà, là il s'agit d'un roman, non pas d'un témoignage, de Rebecca Alighieri, chez Folio. Et donc, qui sont ces garçons de l'été ? Ce sont deux frères qui s'appellent Thaddée et Zaké. Ils ont grandi sur la côte basque, c'est vraiment famille parfaite, ils sont parfaits, ils sont grands, blonds, ils font du surf, ils font des études parfaites, ils sont brillants, ils sont très sociables, enfin voilà, les garçons parfaits. Et c'est leur maman en fait qui en parle dès le premier chapitre, qui en parle en ces termes en fait. Vraiment, pour elle, elle a accouché de titans qui vont tout réussir dans la vie. Et elle les admire, et dès le début, on sent que c'est un peu trop. Voilà. Donc, il y a plusieurs chapitres, des chapitres assez courts où chacun, en fait, va donner son point de vue. Donc, la maman, Thaddée, Zaké, il y a une petite sœur aussi qui est la pauvre. Bon, bah, elle, personne ne l'admire trop. Le papa, etc. Et donc, cette famille parfaite, on va vite se rendre compte que tout va voler en éclats. Les deux frères sont à La Réunion. Pour faire du surf. Et
aïe, les requins.
La maman reçoit un appel du petit de Zaké. Elle lui dit que Thaddée s'est fait attaquer, qu'il doit être amputé. Voilà, c'est l'horreur. Et à partir de là, tout va voler en éclats. C'est-à-dire que leurs personnalités vont vraiment se révéler, révéler un côté très sombre. Et notamment, la personnalité de Thaddée qui va vite virer à ses psychopathes, j'en dis pas plus, mais du coup, ça monte en épingle, il y a beaucoup de tensions, il y a des moments qui font assez peur, et c'est vraiment un bon thriller, ça monte vraiment petit à petit, et on peut pas lâcher, en fait, on a envie de savoir ce qui se passe. Et après, il y a ce côté vraiment suspense, moi, que j'ai adoré, et qui est très bien écrit, vraiment très chouette. Et après, il y a aussi tout le côté du milieu du surf, moi, que j'ai vraiment apprécié de découvrir, parce que bon, c'est vrai que j'y connais rien. Et c'est très agréable, voilà, d'avoir de longues descriptions de la mer, de vagues, ça fait très vacances et ça fait vraiment partir ailleurs, même si bon, bah, c'est sur la côte basque. Voilà, donc c'est un chouette livre, je pense, à lire effectivement l'été pour se donner des frissons.
Alors, d'après Olivia de Lamberterie, de l'excellente émission Télématin, c'est du Stephen King à la française. Voilà.
Ah oui.
C'est ce qui est marqué derrière.
Ça paraît pas.
J'irai pas jusque-là parce que j'adore Stephen King. Hein, mais Stephen King, il y a un côté vraiment fantastique. Il y a un côté de l'enfance aussi qui est génial, de l'adolescence, les amitiés, etc. Là, je dirais que bon, bah, déjà, il n'y a pas de fantastique. Hein, c'est très terre-à-terre.
Oui.
Donc oui, non, pour moi, c'est pas du Stephen King à la française. C'est très bien, mais c'est pas le cas.
Ok, donc
tu rajouteras une annotation en dessous.
À conseiller quand même.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment super. C'est très prenant et ça fait voyager.
Un bon roman de vacances. Voilà,
après, voilà, une famille parfaite. On aime bien aussi qui se.
Bah oui. C'est voilà. Trop facile sinon.
Sinon, c'est trop facile.
Allez, je prends la suite. On va parler de BD. Comme ça, on va changer un peu. Un petit livre documentaire suivi d'un roman. On va parler d'une BD. Une bande dessinée, Les Beaux Étés, de l'auteur Zyd Roux, de son vrai nom Benoît Droussy, qui est un scénariste de bande dessinée belge, et du dessinateur Jordi Lafèbre. Donc, il s'agit d'un quatrième tome. Le tome 5 est attendu en novembre pour les vacances de Noël. Alors, chère Pauline, je tiens à te dire qu'en novembre, ce sont les vacances de Toussaint et non pas les vacances de Noël, au passage. Alors, ce tome qui s'intitule Le repos du guerrier nous ramène en 1980. Alors, les autres tomes déjà parus, les trois d'avant, c'est 1973 Cap au Sud, 1969 La Calanque et 1962 Mamselle Estérel. Donc, ces livres sont centrés sur la famille Faldero, les parents, leurs quatre enfants qui partent chaque été à l'aventure. Alors, enfin, il reste quand même ça reste du camping en France, hein, même si c'est du camping sommaire. Et cet été 80, pas de camping, car le frère du père qui est dessinateur et qui, pour une fois, a fini sa bande dessinée, ne sera pas en retard, enfin presque, a acheté une maison vers Bergerac en Dordogne. Une maison clé sur porte, donc fini le camping. Tout le monde est content, sauf qu'arrivé sur place, l'entrepreneur est parti à Tahiti sans construire le lotissement, prévu pour la famille, mais également d'autres familles sur place. Donc c'est des vacances qui, une nouvelle fois, vont se poursuivre en camping sauvage. Alors on a vraiment l'impression que c'est autobiographique, donc je sais pas, peut-être tu es au courant, Pauline n'a pas trouvé si c'était autobiographique ou pas.
Bah, je sais pas.
Tu ne sais pas non plus.
Je sais pas, mais après je pense qu'effectivement, j'ai lu les trois premiers tomes, j'ai pas lu celui-ci. Mais ça pioche effectivement dans du vécu et dans du vécu de tout le monde, même le camping en famille, etc. Voilà, c'est.
Alors, c'est de l'humour belge, hein, c'est vraiment sympa, bonne détente, c'est à conseiller, vraiment à conseiller pour l'été, ça donne envie de lire les autres.
Oui, on peut les lire dans n'importe quel sens, puisqu'en fait, chaque tome fait état d'un été en fait, en particulier. Et moi, je trouve ça assez sympa, effectivement, le côté un peu vacances vintage, le vieux combi, Volkswagen.
Là, c'est une 4L rouge.
Oui, bah voilà, enfin. Tu vois l'esprit, quoi.
Voilà, et donc le cinquième tome qui va sortir à Noël, ce sera Les Beaux Étés à Noël Impossible, qui va sortir bientôt. Non, c'est très sympa, voilà, à conseiller pour l'été. Donc je vais me faire le plaisir de donner la parole à Valérie qui est en train de manger. Ou non, à Pauline, allez. Allez, Pauline, on l'attend.
Je me lance.
Allez, lance-toi.
La première émission radio, attention.
Allez, on est tous avec
donc,
toi.
Merci. Donc moi, j'ai lu Les Chats d'Amalfi. Donc c'est un petit roman de Dominique Dousseau. Alors Dominique Dousseau, c'est un professeur d'histoire de l'art à l'université de Pau. Et donc c'est la première fois qu'il se lance dans un récit donc, comme celui-ci. Et c'est autobiographique. Il va raconter en fait ses vacances avec sa femme. Et chaque année, ils choisissent une nouvelle destination. Et donc cette année, c'est Amalfi, donc c'est en Italie. Et arrivés sur place, ils vont donc louer une jolie villa à Scala. Et ils vont découvrir une petite famille de chats à laquelle ils vont beaucoup s'attacher. Et voilà, ils vont leur donner des noms. Donc il y en a un qui va s'appeler Chaussette parce qu'il a les petites pattes blanches alors qu'il est noir. La mère va s'appeler Cléo parce qu'elle leur fait penser à Cléopâtre. Il y en a un qui s'appelle Fripon parce qu'il fait que des bêtises. Donc, petit à petit, on va s'attacher, nous aussi, aux chats. Puis on va en apprendre aussi un peu plus sur leur comportement, comment ils réagissent, parce qu'ils sont à l'état sauvage, mais pas si sauvage que ça finalement. Et du coup, voilà, donc c'est un récit qui est très singulier. J'ai trouvé que parfois ça manquait un peu de profondeur, mais on va dire que ouais, pour l'été, ça peut être sympa à lire sur la plage ou en terrasse, quand on fait bronzette, voilà, c'est mignon. Je pense que c'est plus adapté pour peut-être les collégiens. Pour commencer à lire, je pense que c'est bien parce que c'est pas compliqué, c'est écrit assez gros. Voilà, il y a de temps en temps un vocabulaire un petit peu compliqué, mais dans l'ensemble, c'est facile à comprendre. Voilà, c'est détente, c'est pas prise de tête. Il y a des petites illustrations en plus qu'on peut, pourquoi pas, colorier à l'intérieur. Non, mais voilà, sinon, franchement, c'est bien. Puis du coup, on va suivre leur été avec ces chats. Et en fait, ils vont y retourner un an plus tard. Et là, du coup, j'en dis pas plus. Voilà. Je laisse découvrir ce qui va se passer un an plus tard. Est-ce qu'ils vont retrouver ces petits chats?
Et non, ils sont morts. Ils sont tous fait écraser.
C'est plutôt pour adolescents, en fait. Pour pour adultes amoureux des chats.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est mignon parce que, ouais, comme j'ai dit, on s'attache aux chats. Et puis... C'est un petit récit sympa. Ouais.
Et Valérie, elle a ses sourcils, elle aime pas les chats.
Monsieur, elle en a un.
Oui,
enfin, on se demande si c'est un chat, mais...
C'est un chat.
C'est un chat.
Si, ça miaule et tout.
Ça miaule, ok. Super, merci Pauline. Les chats d'Amalfi. Voilà. C'est ça.
Les chats d'Amalfi. D'ailleurs, j'ai regardé Amalfi, ça a l'air très joli.
Et aux
ça
donne envie d'y aller. De l'éveilleur, oui.
Voilà, édition l'éveilleur.
Alors, il faudrait lire ce livre à Amalfi. Directement.
Voilà, pourquoi pas. Si vous allez à Amalfi pendant cet été, achetez le livre.
Voilà. Et toi, Popo, qui a le temps, tu pourrais faire le parcours de notre amie Katia.
Ouais, elle a regardé les Chinois qui crachent, etc.
Elle a critiqué tout le monde.
Qui sont super lourds.
Avec des dents, s'il te plaît, quand tu regardes. Oui,
c'était bien, Popo, tes vacances. Une horreur, là.
Mais il faut que tu te teignes en blonde, apparemment. C'est le.
Oui, il faut, oui. Oui, parce que je suis petite déjà. Ça...
Oui.
Manque plus que la blondeur.
Ouais. Valérie.
Oui.
Fais-nous rêver.
Ah, alors je choisis le deuxième livre.
Non, choisis ce que tu veux. Tu as le droit de ne pas nous faire rêver.
C'est vrai. Non, ouais. Mais alors moi j'ai eu un petit livre qui fait pas rêver, mais qui raconte les vacances de son auteur. Donc c'est François Place, qui est un illustrateur jeunesse, qui a fait quelques romans pour la jeunesse et qui là a sorti ce livre. Alors j'ai été curieuse de savoir est-ce que là c'était pour la jeunesse ou pas. Moi j'avais l'impression que c'était un livre pour adultes, mais a priori. Dans la collection, là, c'est aux éditions du Sonneur, il préconise, mais il le classe quand même en jeunesse. Alors, moi, je le conseille aux adultes quand même, parce que je ne pense pas que les enfants puissent ressentir la subtilité de François Place, qui va raconter ses vacances quand il était jeune, les 2 mois de vacances qu'il passait en Corrèze, sur le plateau des Mille Vaches, chez son tonton et sa tata, qui vivaient déjà à l'époque, comme encore à l'époque d'avant. Donc, c'est...
Tu nous fais rêver, là.
Ouais. Mais voilà, non mais... Alors, forcément, tu passes après la côte Amalfi, tu passes après les vacances en combi Volkswagen, tu passes après une chippie qui a fait le tour du monde. Tu peux pas... Enfin,
tu peux pas,
peux pas faire rêver avec de la Corrèze et du plateau des Mille Vaches, mais malgré tout... Vous savez, ce jour d'été où il pleut, où c'est qu'on est un peu... Oh, il pleut. Ben, on prend ce livre et il est hyper réconfortant parce que c'est des vacances, mais c'est surtout l'humain qui est mis en avant. Donc Jean-François Place, dans son livre, là, 2 chevaux la nuit, puisqu'il se déplaçait en 2 chevaux chez son oncle et sa tante en Corrèze, raconte en fait ses étés, de l'enfance jusqu'à l'âge biactole, chez son oncle et sa tante, qui continuent à vivre normalement. C'est pas parce qu'ils avaient le petit-neveu qui était là ou les petits-neveux qui étaient là qu'ils allaient changer leur rythme de vie. Donc, ils continuaient à s'occuper des poules, ils continuaient à les traire. S'il fallait tuer le cochon, on tuait un cochon. Si les vaches s'échappaient, il fallait leur courir après. Après, on faisait les moissons, il fallait stocker le blé. Et lui, il était témoin de tout ça. Il était aussi témoin de beaucoup d'ennuis. Il s'ennuyait énormément. Et il sait le décrire avec des très jolis mots. Et le fil rouge, en fait, un peu de tous ces déplacements, l'arrivée, le départ, aller au village à côté, ça se faisait donc dans la fameuse 2 chevaux où on sent par contre là qu'il a un lien avec cette 2 chevaux qui est très fort. Il l'a décrit, c'est fabuleux. On dirait qu'il parle d'une personne quand il en parle en fait.
Voilà, et voilà, ce sont des petites anecdotes. Alors moi qui ai vécu à la campagne et qui passais mes vacances chez mes grands-parents, j'ai eu l'impression de lire plus ou moins ce que j'ai vécu, donc c'était chouette. C'est pour ça que je me dis, des enfants petits, je suis pas sûre qu'ils apprécient sa juste valeur, ce genre.
Ça a l'air très humain comme livre.
Ah oui, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est la relation, et justement, j'allais dire presque, c'est l'absence aussi de relation qu'il peut y avoir avec ces gens du vieux monde paysan qui étaient un peu taiseux, qui vivaient sur un palan, qui marchaient pas parce qu'ils étaient feignants, mais ils marchaient à l'économie pour pouvoir tenir toute la journée. Et ça, il l'explique bien. Et c'est bien parce que c'est écrit avec ses mots d'adulte, mais à travers ses yeux d'enfant. Parce qu'il l'a écrit tard, hein, parce qu'il est né... Alors, j'ai pas fait sa bio, je suis pas gentille, mais je crois qu'il est né dans les années 50, fin des années 50, François Place. Et donc, il l'écrit aujourd'hui. Donc... C'est vraiment avec sa plume d'adulte, donc les mots sont beaux, les phrases sont belles, et les descriptions sont fabuleuses. Et c'est, voilà, ça se passe vraiment tout dans son petit village, dans son petit bourg sur le plateau des Mille Vaches. Alors ça ne donne pas forcément envie d'aller visiter ce coin-là de Corrèze, mais ça, voilà, ça fait plaisir. C'est un livre qui fait du bien, un livre humain.
Oui, parce que les vacances en famille aussi, ça, même si c'est pas exotique, etc., tu apprends beaucoup de choses. Quand t'es gamin, t'es ravi de pas être avec tes parents et d'être avec le papy ou avec, voilà, pendant quelques jours, quoi. Donc, j'imagine bien l'esprit du livre, ouais, c'est chouette.
Ouais, voilà. Mmh. Après, voilà, il dit aussi que c'était pas tout le temps bien, qu'il s'est ennuyé souvent, mais c'était chouette, voilà. Et il est pas très long, hein. C'est un livre qui fait une centaine de pages et, qui se lit facilement et qui peut faire ramener des souvenirs à celui qui le lit, voilà, qui est très mignon, mais pour les adultes.
Merci Valérie.
Et après, la Corrèze, c'est pas dégueu quand
même.
Non,
c'est très joli, mais le plateau des Mille Vaches, ouais. C'est pas... Voilà.
Quand on est un ado, je suis pas sûre quand même que ça va se trouver.
C'est sûr.
Il y a des endroits magnifiques. Hein,
oui.
Je ne dénigre absolument pas les vacances.
On va avoir un appel du conseil régional.
De François Hollande.
C'est ça, voilà. Et de Jacques aussi.
Oui, c'est ça. Djangolo. Pourquoi Djangolo, Héloïse?
C'est une chanson que j'ai découverte récemment. Et pour moi, c'est le soleil. Pour moi, c'est voilà, une ambiance.
Bon, on va l'écouter.
Nathan Dignon Djangolo Jita. Nde, c'est un Djangolo D-Boy. Allez, Jungle, Nathan Dignon, Jungle.
the man go bam, the bam ba jam lo di boy, onyande.
Ah mince Popo. Non mais on le dira pas. On ne dira pas ce que tu fais ce week-end.
Ouais,
c'est
on le dit
un
pas.
Secret. Tu vas peut-être te balader avec Katia à la retrouver, notre chère amie. On rappelle.
Non. Katia qui voyage seule, petite blonde et aventureuse.
Mmh. Et qui aime pas particulièrement les populations autochtones, mais on n'en dira pas plus.
Bizarrement.
Ouais. Tiens Popo, allez, fais-nous rêver là.
Ah ouais, là par contre j'ai de quoi vous faire rêver.
Ah.
On parlait des voyages dans la famille, aller voir ses grands-parents, tout ça. Et ben là moi j'ai deux bouquins avec deux petits garçons qui sont très très contents d'aller voir alors pas leur grands-parents au pluriel, mais leur grand-mère. Parce que donc dans mon week-end chez grand-mère et comme chez mémé, l'été où j'ai appris la cuisine, on a deux petits garçons qui ont des grands-mères absolument fantastiques. L'été commence, ou pour le coup le week-end, le coup prêt tombe, tu vas aller chez grand-mère. Alors on se dit tout de suite, dans les deux bouquins, c'est un peu le même point de départ, on se dit tout de suite, oh là là, il va râler, il va dire c'est nul, je vais pas aller chez grand-mère. Pas du tout, ils sont très très contents tous les deux d'aller chez leur grand-mère. Alors dans mon week-end chez grand-mère, il est très content d'aller chez sa grand-mère parce que même si elle vit dans un petit appartement tout petit, qu'on n'a pas le droit de regarder Koh-Lanta chez sa grand-mère, la grand-mère dit des gros mots, elle a une petite histoire d'amour qui se profile, elle est fun, elle organise Noël en été, elle a plein de bonnes idées, elle est sympa, elle est... C'est un super week-end et du coup, bah, c'est un plaisir d'aller chez cette grand-mère. Il passe un très bon week-end et en plus, ça se finira très très bien. Voilà, très bon week-end chez grand-mère de Yann Corridian à l'école des loisirs. C'est chez Mouche, donc c'est la collection Mouche. C'est pour les toutes premières lectures. C'est des très très gros caractères. Il y a des illustrations. C'est rigolo, c'est sympa, pour commencer à lire, pour dédramatiser le week-end chez grand-mère, même si la grand-mère ne dit pas de gros mots, ça peut être assez sympa pour mon week-end chez grand-mère. Et alors mon méga coup de cœur d'aujourd'hui, mais gros coup de cœur peut-être aussi, de l'année, je sais pas, mais...
Allez, ça y est, on se rappelle plus
facile,
ce qu'on
hein
a lu.
Alors voilà, il y a aussi que je me rappelle plus trop ce que j'ai lu, mais j'ai vraiment adoré ce bouquin. Qui est un livre jeunesse, un album jeunesse. Donc comme chez Mémé, l'été où j'ai appris la cuisine, aux éditions Les Petits Bérets. C'est un livre donc pour enfants, et ben même en tant qu'adulte, donc j'ai pas d'enfant, je l'ai lu à personne, j'ai lu que pour moi. Et ben j'ai pris un plaisir fou. Donc c'est un petit garçon pareil, donc il va se retrouver chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle est géniale, pas parce qu'elle dit des gros mots, mais parce qu'elle cuisine et elle trouve toujours des petites bidouilles pour cuisiner. Elle va toujours trouver le bon petit truc qui rend un bon plat, la petite explication sur les plats. Et puis avec la grand-mère, on va pêcher, on va manger le fromage chez le voisin et on va faire... Enfin voilà, on va visiter le monde en cuisinant. Et donc c'est un livre qui est super, qui a une présentation assez géniale. En fait, c'est pas l'album classique où on a un texte avec une histoire. On a plein de petits morceaux de texte avec donc l'histoire en elle-même, ce qui se passe, et puis des petites anecdotes. On parle de betterave et puis il va nous expliquer un peu à quoi sert la betterave, d'où ça vient. Enfin, le but c'est pas d'être pédagogique sans en avoir l'air. C'est pour raconter les petites anecdotes que grand-mère raconte. Donc c'est super bien fait parce que c'est très sympa. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque plat que va cuisiner la grand-mère, on va avoir une recette donc présentée en illustrée, la recette, et expliquée. C'est-à-dire qu'on a la liste des ingrédients, les conseils de préparation avec les illustrations. C'est des recettes hyper faciles.
Tu peux nous donner un exemple?
Eh ben alors là, que j'ai testé avec ce livre-là,
wow,
moi qui ne suis pas du tout cuisinière.
qui suis un peu un enfant face à, au fourneau, et ben j'ai fait un excellent rougail saucisse.
Super.
Qui est un plat originaire de la Réunion et qui est adapté avec une saucisse de morteau, puisque la grand-mère dans l'histoire a des saucisses de morteau dans son frigo et pas exactement tout ce qu'il faut. Mais voilà, elle adapte tout, elle est fantastique cette grand-mère, elle a plein de bonnes idées, elle donne plein de tuyaux. Et le bouquin est assez génial parce qu'il y a plein de petits détails, il y a plein de petites historiettes, il y a plein de petites anecdotes. C'est une vraie merveille, vraiment. À lire avec vos enfants.
Mais je l'ai lu et j'ai vraiment adoré aussi. C'est vraiment la grand-mère, elle est super, oui. Et les plats sont, enfin, donnent vraiment envie.
Oui. Ouais.
Et ce qui est chouette, c'est qu'elle habite en Franche-Comté, du coup, il y a tout ça, le fromage, les saucisses, etc. Mais elle est très ouverte, quoi. Oui. C'est à chaque fois, bah, t'as un voisin qui lui apporte un kumquat ou un ingrédient et elle va s'adapter, en fait. Elle est pas dans ses recettes traditionnelles, etc. Elle s'adapte et c'est super, c'est très mignon et très alléchant, ce livre.
Ouais. Une vraie petite merveille, vraiment.
Excellent, c'est aux éditions Les Petits Bérets, tiens, je connais pas. Mm. Non, Héloïse,
ah, je n'ai rien
oui.
à dire.
Oui, c'est bon. Bon. Non, c'est pour ça que je te questionnais dessus, Petits Bérets.
Oui, c'est une toute petite maison d'édition, ils sortent une dizaine de livres par an.
Mm. Rouleau de printemps, c'est barré, il y a marqué rouleau plutôt d'été en fait.
C'est adapté en fait, elle adapte les recettes avec ce qu'elle a sous la main.
Et elle veut faire plaisir aussi à son petit-fils, oui. Donc elle adapte aussi un peu
super.
En fonction de ses goûts.
À un moment, elle fait un burger un peu particulier, enfin voilà, elle a plein de super idées et on a envie de tout cuisiner, c'est fantastique. Et je pense que ça éveille l'envie chez les petits aussi. J'ai pas testé, mais je peux qu'y croire.
Ouais. Ouais, en plus c'est joli, c'est un très joli ouvrage. Merci Popo. Allez Valérie.
C'est vrai ?
Ouais.
On va continuer à parler de cuisine alors.
Ben voilà. Ah, je pense savoir de quoi tu vas nous parler.
C'est vrai, vas-y. Ouais.
Ben allez, non, je te laisse faire.
Tu fais des pronostics ?
Je pense que c'est quelqu'un qui part sur la route pour découvrir de la gastronomie. La gastronomie populaire ? Qui ne l'est pas finalement ?
C'est pas tout à fait ça, t'as mal écouté quand j'ai parlé hier soir.
Je n'ai pas mal écouté, disons que c'était un peu
tard. J'ai mal expliqué, c'est ça ?
Non, c'était un peu tard pour moi.
D'accord. Non, en fait, on va parler de cuisine. Alors, t'as presque juste sur quelques points. Il y a effectivement le côté cuisine, il y a le côté balade.
Ouais,
puisque nos auteurs, en fait, Caroline Lopez et Anthony Laguerre, sont des globe-trotteurs. Et en l'occurrence, là, ils sont partis faire le tour du monde en vélo. Chacun un vélo, en emportant tout ce dont ils avaient besoin dans leur sacoche. Nombreuses sacoches ultra bien organisées. Je veux dire, même un militaire, je pense, aurait des cours de rangement à prendre tellement ils avaient l'air super bien organisés dans leur sacoche. Et les voilà partis, donc, faire le tour du monde. Et ils nous racontent dans ce livre comment manger avec ce qu'ils ont sous la main.
Sauf que. Ça, je m'en rappelle.
Voilà, tu te rappelles de ça, voilà.
Je me rappelle la dorade.
Et jusque-là, j'étais super, super enthousiaste. J'ai dit, waouh, génial. Le livre s'appelle Cuisine Situ. Cuisine aventurière sur la route d'un tour du monde en vélo chez Alternative. Ça partait super bien. J'étais ravie. Je me suis dit, c'est vacances au camping. Je vais avoir besoin de rien prendre puisqu'ils vont m'apprendre comment je peux cuisiner avec rien. C'est pas tout à fait ça. En fait, Caroline, elle est designer culinaire. J'ai pas trop bien compris, c'est des nouveaux métiers que je maîtrise pas très très bien. Enfin, grosso modo, elle fait...
Si, moi j'ai un ami qui s'appelle Eric et qui fait de la cuisine
moléculaire.
Moléculaire,
oui,
et
mais
c'est un peu
pas
ça.
Pareil, parce qu'il prend des ingrédients qui transforment en chimie et après tu peux les manger. Et là, tu peux pas le faire au camping.
On l'appelait Molecule Man au 31 décembre d'ailleurs.
Ouais. D'ailleurs, je vous recommande les huîtres litchi saké moléculaires.
Excellent.
Très bon.
Très bon.
Voilà. Donc, c'est pas la peine de se moquer.
Mais issu d'un livre dont on a parlé ici.
Absolument, c'est toi qui en avais parlé.
Exactement. Ouais. C'était mon livre préféré.
C'est ça.
Je l'avais présenté, je m'en souviens.
Tu veux le nom Voilà. Donc, là, en fait, Caroline et Anthony, sur le moment, j'ai été un peu déçue par l'ouvrage, puis je me suis dit, en fait, il ne faut pas le prendre comme un livre de cuisine, il ne faut pas le prendre comme un documentaire sur comment toi survivre au camping, et il ne faut pas le prendre non plus comme un récit de voyage, mais comme un gros gloubi-boulga de tout ça. Parce que les recettes sont pas mal, Mais moi, il y en a certaines, même avec ma cuisine super équipée, mes 14 poils, mes 10 cocottes, tout
et
ça, j'aurais
robot.
Du mal. Et mon super robot. J'aurais du mal à les faire. Donc, bravo de les faire au camping. Ils font quand même une tarte aux pommes sans four. Voilà. Bon, il y a pas mal de choses.
Mal. Mais comment ils font? Ils fabriquent un four solaire ou
Non. Accessoirement, ils avaient trouvé des sources d'eau à 80 degrés. Mmh. Donc, ils peuvent faire un peu un système de boucanage. Donc, il y a des choses qui
aident bien. Ah, ils sont allés à Schotzeg, peut-être.
C'est ça. Hein? Ça avait l'air un peu plus chaud et un peu plus désertique, mais enfin pas désertique. Là,
ouais, parce que c'est chaud et c'est désertique, hein,
ouais.
Schotzeg. Hein.
Ouais, ouais, mais voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. L'eau était moins bleue turquoise, il y avait moins de poissons multicolores à Schotzeg.
Après, voilà. Tarte aux pommes, par exemple, cet exemple-là. Ouais. Par exemple, pour le beurre, la pâte, les pommes, tu les trouves, mais
c'est
après
ça.
La pâte.
Ben, c'est ça, mais en fait, la pâte, ils ont de la farine, ils ont du sucre, donc j'ai un peu de mal à croire qu'ils avaient tout dans leur barda. Oui. Et ils achètent aussi beaucoup sur place, donc très bien. Et
donc
à un moment donné, ils font
d'accord.
une recette au panna cotta, ils vont s'acheter du lait de coco. Enfin, c'est
des globetrotters 3 étoiles.
Voilà, c'est voilà. Ça. À un moment donné, ils vont ramasser des champignons. Là, je suis d'accord, on est vraiment dans le côté globetrotter. Mais en même temps, ils ne m'expliquent pas quels champignons je peux ramasser. Mais est-ce qu'il y aurait eu un intérêt qu'ils m'expliquent en Corée du Sud quel type de champignons je pouvais ramasser là-bas? Non, donc c'est pour ça en fait, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir les réponses à toutes les questions du monde dans un livre. Donc il faut le prendre plus comme voilà, ils ont vécu ça, ils nous le racontent et accessoirement il y a quelques recettes. Parce qu'il y a une recette d'un pesto d'ail des ours. Moi, si tu ne mets pas une photo de l'ail des ours, à part au marché paysan en ville, je n'en ai jamais vu.
Oui,
donc, je n'ai jamais vu dans la nature. Donc je
la pète un peu quand même. Hein.
Ouais, c'est
Son copain avec ma copine.
C'est ce que j'allais te dire.
Non, parce que je les sens un peu plus.
D'ailleurs, Popo, page 37, je vais te dire un passage du livre de Valérie, page 37. Ah, nous croisons notre voisine de Brooklyn, Katia. Katia qui revient d'Inde et elle nous prévient, attention, la bouffe est dégueulasse, trop
tu
épicée,
salaud
d'Indien.
Tu es mauvaise langue. Parce que page 37, eux, ils cuisinent, ils te racontent comment citronner leur plat avec des huiles essentielles de citron. Voilà.
Ah ouais, non, ils sont trop bobos pour Katia. Laisse tomber.
Ouais, non, mais ils sont... Katia les déteste. Après, ils avaient super bien organisé, ils avaient des vélos, ils avaient un sponsor, et dans chaque pays où ils allaient, ils retrouvaient le revendeur de vélos. C'est pas mal. Les photos sont
ils l'ont fait à vélo,
jolies.
Quand même.
Un vélo,
voilà,
oui.
Il faut le préciser.
Oui, non, mais ça, c'est chic. J'avais dit le barda, l'armée,
c'est
la
chic,
jalousie.
C'est chic sous la pluie, le vélo.
Oui, non, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie aventure par rapport à Katia, à Staffield... Qui nous raconte à Durban, dans son hôtel 3 étoiles, la vue qu'elle avait. Je pense que les miens sont un peu plus aventureux. Les photos sont magnifiques, mais c'est le job.
Ah, il y a des photos aussi.
Oui, il y a énormément de photos.
C'est eux-mêmes qui ont pris les photos, donc j'imagine.
C'est eux qui ont pris les photos au long de leur voyage. Alors, il y a vraiment des très, très jolies photos. Et chaque fois, ils mettent bien la nourriture en avant. Donc, il y a ce côté très sympa. Après, c'est pas le genre de livre que tu vas prendre dans ton sac à dos quand tu pars une semaine en camping.
Non.
C'est un joli livre à avoir, à offrir, peut-être à quelqu'un qui aime voyager, parce que chaque fois, à chaque recette, ils racontent un petit bout de ce qui s'est passé dans leur voyage. Voilà. Là, comment ils font cuire, alors c'est pas la tarte aux pommes, mais c'est du poisson qu'ils font cuire dans un sac plastique.
Au soleil.
Au soleil, ouais, dans une source d'eau chaude.
Il y a toujours des sources d'eau chaude à portée de main.
C'est où tu trouves le sac plastique.
Le thermalisme, selon moi.
Comment tu pêches le poisson. C'est chouette, voilà, mais c'est leur récit de voyage où ils ont inclus des recettes. Après, par contre, il y en a une que j'ai vraiment... Mon coup de gueule qui m'a fait... J'ai failli fermer le livre et de rage le jeter. Puis je me suis dit, mince, il a Héloïse, il faut que j'y rende. C'était un super défi qui s'était lancé. Ils voulaient faire...
Tuer des ours.
Hein?
Ils voulaient tuer des ours.
Mais non, mais à la limite, ça aurait été Roots, tu vois. À main nue, c'était classe. Hein. Vlad,
oui, à
main
nue, c'est classe.
Ouais. Non, là, c'était manger une glace dans l'Himalaya. Ok, donc ils montent dans le massif des Annapurna et ils vont cuisiner une glace. Et là, tu vois les photos, tu dis...
Ils en mettent partout, quoi.
Non, regarde, c'est magnifique, ils vont faire une glace.
Ouais.
Alors moi, je dis, attends, j'arrive même pas à faire une glace amande à 700 mètres d'altitude. Comment ils font?
Il faut une sorbetière.
Ouais, il faut une demi-bombe de crème chantilly, du lait concentré et des fruits secs. Et là, je me suis dit, non, les mecs, ils ont monté une demi-bombe de crème chantilly.
Ils l'ont balancé après, c'est sûr, ils l'ont balancé.
Ouais, parce que la veille, j'ai vu un reportage sur tous les déchets qui redescendaient de là-haut et ça m'a
montré. Ah ouais, c'est un scandale.
J'étais colère, voilà. Mais sinon, à part ça, les recettes ont l'air quand même assez sympas. C'est avec des ingrédients qu'on peut trouver assez facilement, c'est pas exotique. Donc, pourquoi pas l'avoir comme livre de recettes, prendre du plaisir à lire les petits témoignages en suivant leur voyage et bah, profiter des jolies photos de eux en train de cuisiner le plus souvent et de quelques paysages. Voilà, je ne sais pas me positionner par rapport à cette lecture.
Non, merci, mais chacun Valérie. Se fera son idée. Voilà. Voilà.
Exactement, Héloïse. Allez, je vais poursuivre. On va parler de vacances solidaires un peu parce que pas grand monde dans cette émission n'a encore parlé de vacances solidaires à part notre amie Katia.
Mais c'est quoi les vacances solidaires?
Qui est solidaire envers elle-même. Vacances solidaires. Mais justement, je vais te l'expliquer ou plutôt ce livre choisira des vacances solidaires chez Actes Sud de Kaizen dans la collection Je passe à l'acte. Écrit par Véronique Burine, journaliste, Marie-Noëlle Hembert, scénariste et auteur, et l'illustratrice. Par ailleurs graphiste, Philomène Longchamp, qui met d'ailleurs son travail au service de projets éco-citoyens. Et ce livre a été réalisé sur papier fabriqué à partir de fibres issues d'une sylviculture responsable. Donc on va jusqu'au bout de notre idée.
Bravo, bravo. Ouais. C'est super.
Ça c'est bien, c'est un bon point de départ.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du grain des livres et un auditeur me l'a...
C'est vrai, moi aussi j'ai eu un retour un peu déçu qu'on ne parle plus de ça.
Donc c'est très
bien. C'est très bien. Donc en gros, vous ressentez l'envie de profiter de vacances, de vos vacances pour donner un peu de votre temps, vous engager pour être solidaire. Vous n'avez pas d'idée sur ce que vous pourriez faire, encore moins par où commencer. Donc cet ouvrage est pour vous, car en effet, il existe mille et une façons d'être solidaire aujourd'hui, en partant à l'étranger ou en restant chez soi, qu'on agisse seul ou avec des amis ou en famille, avec des enfants, des adolescents. Il y a énormément de choses à faire. Alors, il y a des séjours humanitaires, des congés solidaires, des missions d'éco-volontariat, du woofing, du chantier participatif, de l'accueil d'enfants à son domicile, de l'accompagnement de personnes isolées. Jusqu'au montage de son propre projet, les auteurs nous dévoilent peu à peu la palette des solutions qui s'offrent à vous, vous interrogent sur vos motivations profondes et vous révèlent vos capacités afin de vous aider à vous lancer. Donc au fil de la lecture, on identifie un peu ce qui pourrait nous correspondre et on rencontre par leur témoignage des personnes qui sont passées à l'acte pour que ça soit concret.
Alors toi Ludo, tu nous ferais quoi comme vacances solidaires?
J'y arrive à la fin. Okay. Je n'ai pas de vacances, moi. Je fais partie de la population qui a 5 semaines de vacances par an, qui doit en poser 3 pour s'occuper de ses enfants. Mais je pourrais accueillir des enfants qui ne partent pas, eux,
c'est
en vacances.
Ça, voilà. Ou faire du woofing.
Mais quand je suis seule, que je dois déjà m'occuper de mes 2 enfants, m'en rajouter 2 de plus ou 1 de plus, déjà, ça m'épuise.
T'accueilles des gens en woofing et ils s'occupent de tes enfants.
Qu'est-ce que le woofing, Pauline?
Aucune idée.
Ouais, Pauline, tu m'as préparé ma fiche de lecture.
C'est ce que j'allais dire, on dirait pas que c'est ses notes à lui qui est en train de lire. C'est pour ça que je posais des questions.
Alors, ce livre est... Non, c'est pas
Tu n'as pas répondu à qu'est-ce que le woofing, s'il te plaît.
Je ne sais pas ce que c'est le woofing.
Mais en fait, c'est que tu prêtes ton canapé et les gens viennent chez toi, ils dorment sur le canapé.
Ah, mais c'est ça, oui.
Parce qu'il y a une idée de travail derrière.
Ah oui, non, je confonds avec le woofing. Mais je ne sais pas dire
parce qu'il y a le warm farming aussi, où tu vas travailler chez les gens.
Non, mais le woofing, tu as raison, c'est le...
Tu vas travailler
en échange, les gens te logent et te nourrissent. Parce qu'il y a aussi le truc où tu accueilles les gens sur ton canapé.
Couchsurfing.
C'est ça, le canapé.
Voilà, je confonds avec le woofing.
Donc en gros, ce livre est... Ce livre va répondre à ces questions-là.
D'accord.
Il est découpé en 6 chapitres qui s'intitulent « Pourquoi s'entourer, se lancer, tenir, bon et après ». Donc, il donne des solutions pratiques pour s'engager pendant ses vacances en fonction de ses motivations, pour passer à l'acte dans les meilleures conditions. Donc, on découvre plein de chiffres aussi sur le bénévolat. 3 millions d'enfants en France n'ont pas la chance de partir en vacances et attendent qu'une famille les reçoive à la campagne, par exemple. Nous qui sommes à la campagne. 13 millions de bénévoles en France font des projets de vacances solidaires. 13 millions, ce qui est quand même énorme. Ça, j'en suis pas sûr. Je pense que Pauline a un peu craqué. Mais bon.
Sur le nombre de 13 millions ?
Ouais.
Non, je l'ai trouvé dans le livre directement.
D'accord, très bien.
Et d'ailleurs, le woofing, du coup, c'est en fait participer, travailler dans une structure d'agriculture biologique.
Ah, c'est biologique, c'est d'accord. C'est le farming, wolf farming, mais côté biologique. Très bien. Donc, parmi les témoignages, on a pourquoi Christian, électricien, a décidé de partir en urgence dans un hôpital de Brousse au Niger pour Médecins Sans Frontières. Comment Edith, boulangère, accueille régulièrement des enfants chez elle pendant les vacances avec le Secours Populaire. Comment Émilie est partie en éco-volontariat pour des missions financées par son entreprise. Donc, c'est vraiment le guide pour des vacances solidaires. Alors, je vais finir par le début de ce livre qui nous dit « Savez-vous quel est le principal frein à l'engagement? Le manque de temps. Hors du temps, c'est pendant les vacances que nous en avons le plus ». Voilà, donc cette collection Je passe à l'acte répond à une demande croissante de personnes qui cherchent à faire évoluer notre quotidien, à contribuer à améliorer un peu le monde. Et dans cette collection, il y a faire la fête sans détruire la planète, moins d'auto pour aller au boulot, s'engager dans une AMAP, méditer puis agir, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment, si vous avez envie mais que vous n'arrivez pas à franchir le pas, que vous voulez vous renseigner, c'est un livre à avoir à tout prix.
Et ça peut donner des idées, effectivement. Il y a des adresses, des noms d'associations, etc., j'imagine.
Pauline ? Oui, parce que je lui fais faire
le petit jeu. T'as pas lu le livre, en fait.
Si,
je... Ouais, Ludo, quand même.
Non, il n'y a pas
d'adresse. T'aurais pu laisser Pauline en parler, t'exagères.
Si, pour en savoir plus, t'as des... Oui, t'as des liens. T'as... Par exemple, sur l'écotourisme, le Wolfmunding, on te donne des livres. Voilà, le guide de l'écotourisme au Petit Futé, t'as l'écotourisme de Lionel Estruc, etc., etc. À la fin, t'as quelques liens, mais sans plus. Après, t'as des... Voilà, tu veux franchir le pas, ils te parlent un peu des visas, des ordonnances, des vaccins, etc., quoi.
Ok.
Ok.
Et toi, tu ferais quoi?
Moi, j'ai pas de
temps. J'ai pas de temps.
Je fais un peu
du... Moi, c'est un peu du bénévolat solidaire d'être avec vous un vendredi sur deux. Hein.
C'est moche.
Ouais, je sais. C'est la dernière.
C'est vrai.
Allez, on va finir en beauté. Valérie, tu n'as plus de livres. Non. Pauline, tu n'as plus de livres.
Non.
Popo, tu n'as plus de livres.
Non plus.
Allez, le livre de cette année. Héloïse.
Ah ben, en plus, c'est un gros coup de cœur, vraiment. Donc, ça tombe bien de finir sur cette note florale. Et totalement délirante avec ce livre qui s'appelle Le voleur d'orchidées. C'est un reportage, c'est une histoire vraie. Et qui fait. Je l'ai choisi en fait pour le thème parce que ça ne parle pas de vacances, mais bon, pour moi, ça m'évoque vraiment les vacances et une ambiance de voyage et de découverte. Donc, du coup, je me suis dit que je pouvais en parler dans le cadre de l'émission. Et j'ai vraiment adoré, je voulais en parler avant de partir. Voilà. Donc ça s'appelle Le voleur d'orchidées, c'est une enquête de Suzanne Orlean, qui est une journaliste américaine. Elle l'a écrit il y a quelques années déjà, mais c'est la première fois en fait que l'enquête est éditée en France. Donc est-ce que vous avez des orchidées chez vous? Est-ce que vous connaissez ce milieu-là?
Moi j'ai un phalaenopsis, mais j'ai pas d'orchidées.
D'accord.
Moi, je connais, mais j'en ai pas.
C'est la vulgarisation.
Moi, je les ai tuées, comme toutes mes plantes.
C'est fait pour.
Donc, tu as une orchidée?
Oui, mais enfin, on appelle ça orchidée, mais je sais que c'est pas le. Enfin, ce que dans le commerce, on te vend comme une orchidée, oui. Je sais que c'est pas. Après, il y en a plein à la Lozère, des orchidées.
Oui, il y en a plein, effectivement, des sauvages, effectivement. Il y a d'ailleurs plein de guides des orchidées sauvages en Lozère, si vous voulez. Mais donc là, c'est cette journaliste qui tombe sur un petit encart dans un journal et elle voit en fait qu'un certain John Laroche va passer devant le tribunal pour vol d'orchidées avec trois Indiens d'une réserve séminole en Floride. Et elle voit ça et elle est intriguée, elle dit « bon, je vais aller faire un petit article pour mon journal, c'est étonnant quoi ». Et en fait, elle va y passer des années avec ce monsieur, avec des orchidophiles assez incroyables de Floride. Et elle va en sortir, en fin de compte, un livre. Et c'est un milieu que je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Après, je sais que souvent, les collectionneurs sont des gens assez fous et assez obsédés. Mais là, ça prend des proportions incroyables, quoi. Sur les orchidées, c'est vraiment hallucinant. Et on rencontre des personnages, mais totalement délirants, obsédés, extrêmement drôles. Il y a plein de types d'orchidées, en fait, et il y en a qui sont obsédés par tel type d'orchidées, il y en a qui en fabriquent, par exemple, le but, c'est d'arriver à faire une orchidée entièrement noire, ce qui n'existe pas encore. Et il y a des millions de possibilités, en fait, en croisant différentes orchidées. Et donc, elle va entrer dans ce milieu-là. Et John Laroche, bah, c'est un peu un mix entre Indiana Jones et The Big Lebowski, vraiment, c'est... L'aventurier loser, il est assez fantastique, ouais, assez. Des fois, il est peu sympathique et des fois, tu vois, t'es passionné par ce qu'il dit. Enfin, c'est un personnage vraiment fascinant et il va lui ouvrir en fait ce monde des orchidées. Et il faut savoir qu'en Floride, voilà, c'est l'endroit en fait où le plus d'orchidées sont produites au monde, avec l'Indonésie ou je sais plus. Je crois que c'est l'Indonésie. Et c'est un milieu totalement hallucinant. Et donc, sur ce vol d'orchidées. C'est John Laroche qui allait dans une réserve naturelle avec les Indiens. pour voler des orchidées fantômes. C'est l'orchidée qu'il y a sur la couverture. C'est une orchidée très rare, en fait, et qui existe qu'à l'état sauvage. Et son idée, en fait, c'était d'arriver à la cloner et de la vendre à travers le monde. Donc, on suit en même temps son procès. On suit tous ses collègues, amis, ennemis du milieu de l'orchidée. On découvre la Floride aussi, qui a un état, je pense, très particulier, tout en contraste avec effectivement les bayous, les réserves indiennes, les plages, voilà, Disneyland. Enfin voilà, c'est totalement hallucinant comme endroit, et c'est vraiment inspirant et très drôle, quoi. Enfin, c'est un livre que j'ai absolument adoré, un milieu qu'on connaît pas du tout et qui mérite, je pense, le coup d'œil parce que c'est drôle.
Oui, c'est étonnant, voilà. Le scénario et
chouette.
Mais il ouais, y a eu un film adapté
aussi.
De ce livre, en fait, je ne connaissais pas, avec Nicolas Cage et Meryl Streep.
Ah oui.
Ah bon ?
Voilà, c'est marqué sur le bandeau du livre, ça s'appelle L'Adaptation.
Ok, de 2003. Ouais. Ah ouais, il n'a pas dû beaucoup marcher ce film.
Il a été diffusé en France.
Bah, je ne sais pas, je pourrais essayer de le chercher, mais j'ai regardé la bande-annonce. Et...
On dirait ta voisine Valérie. Ouais.
Ah oui.
Un peu. Version, j'ai un peu trop bu.
Et après, c'est vrai qu'il y a aussi tout un pan historique, dans le sens où, dans un chapitre, elle explore vraiment l'histoire de cette fleur. Et ça a démarré au XVIIIe siècle, où des riches Anglais ont commencé à découvrir cette plante et à devenir totalement obsédés, à engager des espèces de mercenaires pour aller en chercher partout dans le monde. Et c'est des gens, en fait, qui ont découvert plein d'endroits avant tout le monde, mais sauf qu'ils s'en foutaient, ils allaient juste chercher les orchidées et ils partaient, quoi. Mm-hmm. C'était pas dans un but scientifique, c'était purement dans un but commercial, mais du coup, c'était des vrais aventuriers aussi. Enfin, ouais, c'est un milieu...
Alors, l'auteur Suzanne Orléans, c'est pas n'importe qui quand même, hein, rédactrice au New Yorker. Depuis 1992, hein, le New Yorker, c'est quand même un prestigieux journal, hein, et qui collabore aussi à Vogue, à Rolling Stone, à Esquire. Et avant d'avoir écrit ce livre, ouais, ça doit être une belle écriture.
Ah, c'est super. C'est vraiment
très envie. Ouais, le sujet, le fond, ça a l'air super.
Ouais. Tu nous diras après l'émission ce qu'il est advenu à la fin du procès.
De John.
Allez, on ne vous le dit pas. Hein, ok, 13h25, pile poil dans les temps.
On est bon.
Valérie va pouvoir enfin nous dire le vrai livre qu'elle a adoré cette année.
C'était celui-là, parce qu'en fait, il y a 15 jours qu'on a fait l'émission, dans 3 semaines, je m'étais réveillée dans la nuit. J'ai dit, oh, Ludo, il va me poser la question, je vais être brelot, je ne vais pas me rappeler. Et puis il va dire, non, mais sinon, un livre que tu as lu.
Oui.
Voilà. Et non, je pense vraiment que celui qui m'a le plus marqué, c'était ça, c'était le livre jeunesse, donc de Les Chants de la Pierre. Et mais par contre, depuis l'émission sur le féminisme, je vous avoue que je continue à m'épiler, mais je ne suis plus insensible à la cause.
Super.
C'est bien.
Pauline, quel livre tu as préféré cette année ?
Tu parlais de jeunesse. Moi aussi, j'ai aimé un livre jeunesse. J'ai aimé Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Alors après, je suis en train de lire la suite en ce moment, donc on me l'a prêté. Je suis peut-être un peu influencée. Mais j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'ambiance. C'était sympathique et ça l'est toujours avec la suite.
Pauline, numéro 2. Les chats d'Amalfi.
On a peut-être lu d'autres choses dans l'année.
Oui, moi j'ai eu un livre à Noël que mes parents m'avaient offert. C'est de Alain Damasio. Ça s'appelle La Horde du Contrevent.
D'accord.
Et donc c'est un gros roman. Je pense qu'il faut quand même s'accrocher pour le lire. C'est pas pour les ados, c'est plus pour les adultes. Mais c'était vraiment génial. Et Alain Damasio, c'est un Français. Et du coup, en gros, c'est assez fantastique. C'est de la science-fiction. Et ça parle donc d'une horde qui a été créée parce que c'est un peu la fin du monde. Et le vent souffle tellement fort qu'ils doivent remonter à contresens le vent pour découvrir d'où il vient et pour essayer de sauver l'humanité.
Et après, il y a différents types de vents aussi, etc. C'est ça. Chacun dans le groupe a un rôle bien précis. Enfin, ça fait vraiment une grande quête.
En plus, c'est sympa parce que l'auteur fait intervenir chaque personnage. Et du coup, à la première page, il a attribué un signe à chaque personnage. Et on va retrouver ce signe à chaque fois qu'ils vont parler. Et du coup, tous les personnages interviennent. Et
tu l'as lu, Héloïse ?
Oui.
Oui.
Oui, Alain Damasio, c'est un grand auteur de science-fiction française. Tout le monde attend ses livres. Il met 5-6 ans à écrire un livre.
Ah oui.
Tout le monde l'attend vraiment de pied ferme. Pour l'instant, il n'y en a que 3.
Ouais,
donc, 3. Du coup,
dont un qui est des nouvelles.
Mmh.
Et après, si ça vous intéresse aussi, il a fait des conférences. Vous pouvez les trouver sur YouTube. C'est hyper intéressant.
Non,
sur
non,
le
ça ne nous intéresse pas. Non, non. Ça ira là.
Conférence pour... FedEx.
Ok, super. Et Louise, toi, c'est compliqué, hein, vu le nombre de livres que tu
oui,
lis.
Oui, c'est vrai. Ouais. Après, je pense que j'avais parlé dans une émission d'American Gods.
Oui, ah, oui, oui,
absolument.
Ouais, c'est un livre que j'ai, ouais, que j'ai vraiment adoré cette année, pareil, en, dans le genre un peu science-fiction assez délirante, toujours aux États-Unis.
Moi, par contre, j'ai essayé de regarder la série, j'ai pas du tout accroché.
Et ouais,
suite,
après,
à, suite à ton livre, j'ai dit, tiens, je vais regarder.
Il faut lire le livre, je pense.
C'est hyper violent.
C'est hyper violent.
Ouais,
ouais, ouais, puis je retrouvais pas vraiment le...
l'ambiance.
Ouais, l'ambiance, mais c'est, que je mais c'est pas pareil. Dans le livre. C'est pas pareil, effectivement. Et j'ai lu un livre récemment aussi qui s'appelle Gioconda, un petit livre de 100 pages grec qui est une magnifique histoire d'amour. Voilà.
Ok, super.
Et toi?
J'ai préparé, je pose les questions. Non, je ne l'ai pas préparé, mais j'aime mon souvenir. Je réfléchissais un peu, je me suis dit, quels sont les livres que tu as achetés, Loïs, cette année, que tu as gardés? Et Tito et Jésus.
Ah oui, ouais, mais c'était
livre.
Au tout début de l'année, ça.
Ça compte, parlé, hein, ouais. Ça compte.
Ah oui, non, non, mais...
Dis donc.
Non, non, mais c'est, ça remonte. Ça, c'est
et le livre aussi que j'ai offert, que je n'ai pas gardé, du coup, que... Qu'Eric avait acheté à Stella, qu'elle n'avait pas voulu garder, ce livre fabuleusement beau, sérigraphié, sur les arbres. Arbres,
ouais. Oh, il était sublime, ce livre sur les arbres.
Qui s'appelait... Tu t'en souviens?
Non.
Bon, c'est Chaque te suit, mais il n'y en a plus en vente. Donc c'est réglé. Allez, merci pour cette année. J'espère que cette émission vous a plu encore en 2017-2018. Vous pouvez réécouter, bien sûr, les émissions podcast. On vous remercie de nous avoir suivis toute cette année. Merci, Popo.
Merci à tous.
Passe de bonnes vacances.
Merci.
Profites-en bien. Pareil, Val.
Thank you.
De même, Héloïse.
Ben merci, merci à tous. Et l'année prochaine, il y aura peut-être un petit changement au niveau de la date. De
voilà, de, on vous du dira jour tout de ça, diffusion, ouais. On vous dira tout ça. On est en plein travail.
On te laisse voilà. Le choix dans la date.
Voilà. Très bonnes vacances et... Ouais. Et bon jeu de mots.
Et Pauline, numéro 2, c'est fini. Les fiches de lecture pour toi.
Et oui, ça y est.
Libéré, délivré.
Enfin.
Et comme dirait l'autre,
au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.